Nous sommes nombreux à vouloir ralentir pour retrouver une qualité de vie, la santé et le goût des relations humaines. Mais comment vivre plus lentement sans s'exclure des cercles amicaux, sociaux et professionnels? Où est la pédale du frein et par quoi commence-t-on? Radio Éthique a rencontré Pascal Derme, l'auteur de l'ouvrage « Vivre plus lentement, un nouvel art de vivre » paru aux éditions Ulmer dans la collection « Les nouvelles utopies ».
Ralentir ne signifie pas paresser, ne signifie pas glander, ne signifie pas tout ça. Ne signifie pas non plus vivre plus lentement dans tous les aspects de sa vie, surtout pas. Vivre plus lentement, tel que nous le montrons dans ce livre, c'est trouver son tempo giusto. C'est une expression de Carl Honoré qui a écrit L'éloge de la lenteur, qui est un best-seller mondial, où il raconte comment lui-même a décéléré et comment la lenteur, le mouvement slow, se répand dans le monde. Il invente cette expression, le tempo giusto, en faisant allusion à notre tempo à chacun. Et ça passe par un coup de frein un peu radical au début pour prendre conscience de sur quel rythme on veut vivre, comment reprendre conscience de notre emploi du temps, comment mieux contrôler notre existence à nous, sans s'isoler des autres. Évidemment, on reste dans l'orchestre, on reste entouré, on reste dans nos familles. On donne un premier coup de frein pour essayer de savoir quelles sont nos priorités. Si bien sûr, on en éprouve le besoin. Moi, je parle à des gens qui sont le pied à fond sur l'accélérateur et qui aimeraient ralentir. Et pas évidemment de ceux qui ont ralenti malgré eux et que je salue. Je tiens beaucoup à cette nuance. Il y a beaucoup de gens qui ont ralenti malgré eux de par une maladie ou de par chômage et évidemment ceux-là aimeraient aller plus vite.
Alors ralentir, c'est une forme de résistance, on peut dire ça comme ça?
Ralentir, c'est effectivement une forme de résistance. C'est une reprise en main de son emploi du temps. Dans le livre, on cite plusieurs exemples où cette résistance apparaît assez clairement. On a notamment un agriculteur qui résiste aux pesticides, qui effectivement accélèrent la rotation et accélèrent la productivité de la terre. Et cet agriculteur nous explique qu'il met 7 ans à dépolluer un sol saturé de pesticides par 30 ans d'agriculture intensive. Donc on est dans ces notions de temps, de l'ode aux vers de terre. Parce qu'il commence par retrouver le rythme de la terre en remettant des vers de terre qui vont faire le travail de dépollution des sols, d'aération. On passe par la résistance aussi avec Carl Honoré, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a résisté tout à coup, qui a dit « Je n'en peux plus de ce temps fou, je vais freiner, je vais changer de travail, je vais rapprocher mon domicile de mon travail, je vais arrêter de prendre ma bagnole tout le temps, je vais tout faire différemment, je vais relocaliser mes achats, je vais tout changer pour pouvoir ralentir et m'occuper davantage de mes enfants et vivre avec les miens. » Donc on est dans la résistance aussi. On est sur des villes lentes aussi dans le livre, où on est vraiment dans la résistance aux bagnoles, là pour le coup, parce que c'est des villes qui révisent leur politique urbaine pour traquer la voiture et les remplacer par des modes alternatifs. Nous sommes allés en Italie, à Orvieto, qui est une ville moyenne. C'est des villes lentes, sont des villes moyennes, de moins de 60 000 habitants. Et cette ville, Orvieto, a peu à peu remplacé tous les parkings en petites placettes de restaurants, en lieu de déambulation, remis des bancs publics pour renouer les liens.
Ce serait la capitale des villes lentes. Il y aurait tout un réseau de villes lentes.
Il y a tout un réseau, une centaine de villes lentes dans le monde, qui, sur ce principe de résistance à l'homogénéisation des voitures, de résistance à la consommation aussi, veulent reprendre chacune leur individualité, justement, et se réancrer dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que ce mouvement des villes lentes est en résistance, effectivement, contre l'homogénéisation, l'ubiguïté, les grandes surfaces, tout ce qui nivelle la culture et tout ce qui freine l'identité d'un lieu. Ça passe par les transports alternatifs à Orvieto, ça passe par aussi la relocalisation de l'agriculture, ça passe par une traque aux grandes surfaces, donc de plutôt privilégier les petits commerçants. Évidemment, ça passe par des critères écologiques, de gestion des déchets, de gestion des eaux. Voilà, toute cette forme de résistance aux pollutions et à l'uniformisation.
Par rapport au monde de l'entreprise, c'est aussi un thème que vous abordez. Vivre plus lentement, est-ce que c'est compatible?
C'est très important le monde des entreprises, on ne peut pas vraiment avancer sans elles. Certaines entreprises commencent à se rendre compte que la productivité à tout prix n'est pas forcément le mode de production le plus efficace. Je suis obligée d'utiliser leur vocabulaire. Elles embrayent sur des études neurologiques qui ont montré qu'un cerveau stressé est totalement improductif. Donc il vaut mieux effectivement avoir des employés plus sereins, qui gèrent mieux leurs dossiers, et c'est tout à fait à leur avantage. Alors aux États-Unis, le Boston Consulting Group a fait une expérience où ils ont imposé à leurs salariés d'avoir un temps créatif, c'est-à-dire laissé vacant pour l'imagination, la création, ils ont obligé en quelque sorte leurs salariés à ralentir. Ils leur ont donné quelques heures par semaine pour cela. Ils leur ont demandé de ne pas emporter leur ordinateur à la maison en week-end et de ne pas travailler le soir. Et ça leur a été imposé. Ensuite, ils ont mesuré au bout de quelques mois les résultats et les résultats se sont avérés très positifs. Les salariés, les employés se sont trouvés plus efficaces. L'ambiance et les liens entre les gens s'est améliorée. On avait franchi un peu la ligne rouge dans les entreprises et ça génère effectivement un mal-être et un stress qui a des conséquences sociales et économiques qui sont désastreuses. Alors l'exemple de Karl Honoré a été pour nous assez inspirant parce que lui, il a quitté le travail où effectivement il travaillait en permanence. Il a mieux contrôlé ses outils technologiques que sur Internet, etc. parce qu'on est joignable tout le temps et en tout lieu, si on veut. Et il a quitté un travail qui était trop prenant pour travailler un peu moins, mais mieux, et rapprocher son entreprise de son domicile. Bon, mais ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde non plus. Moi, je crois beaucoup au travail en réseau. Quand on a trouvé une façon de faire autrement, puisque c'est l'esprit de cette collection aussi, de faire envers et avec tous autrement, il faut la diffuser en réseau. Et pour la lenteur, pourquoi pas essayer d'impliquer des collègues et ensuite de diffuser ces bonnes pratiques, faire du covoiturage ensemble aussi pour être moins stressé et chacun dans sa voiture, demander que les journées soient organisées, peut-être faire un peu de télétravail. Ce sont de toute façon des options auxquelles les entreprises pensent déjà pour des raisons économiques, d'économie de carburant et de réduction de gaz à effet de serre aussi. Dans le livre « Vivre lentement », on a aussi fait appel à des artistes qui portent un regard très différent sur la ville, qui est décalé. Et c'est très important, je pense, d'avoir le regard de poète et d'artiste sur la ville. Quelqu'un comme Sylvain Tesson, qui est un auteur, un marcheur, un aventurier, quand il revient en ville, il sait que quand il marche sur le trottoir de Paris, il y a des strates de coquillages en dessous et des strates de pierres très très anciennes. Il a une approche poétique de la ville qui naît de l'information. Même en ville, on peut ralentir et ces artistes nous montrent un peu le chemin. On nous donne envie, en tout cas, d'essayer. L'esprit de la collection, c'est d'être des livres inspirants pour tous ceux qui veulent faire un peu le pas de côté. Je pense, si vous voulez, que les désirs, les rêves, les utopies sont des puissants moteurs de changement. Il n'y a pas que les solutions technologiques pour faire ces changements écologiques attendus. On a été voir des personnes qui portent ces utopies, mais qui les ont réalisées. Et ce qui nous a intéressé, c'est d'aller rencontrer ces porteurs d'utopies, de voir comment ils vivent au quotidien, avec beaucoup de photos, de s'imprégner de leur univers, pour essayer de donner aux lecteurs l'envie de s'inspirer et de reproduire ensuite leur parcours. Ces itinéraires bis du progrès, comme je les ai appelés, qui sont des façons, avec beaucoup de plaisir, d'avancer dans l'existence et d'être un petit peu à la fois militant et courageux, mais aussi hédoniste et profiteur, parce que c'est des très 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 belles rencontres qu'on a fait dans ces livres, avec qui nous ont donné beaucoup de plaisir. Et le plaisir, c'est aussi un grand moteur de changement.